La tête dans l'étagère, une émission de critique sociale diffusée sur Radio Escapade les 1er et 3e mardis du mois de 17h à 18h. Rediffusion le vendredi à 9h30. Eh bien, bonjour tout le monde, vous êtes sur Radio Escapade, c'est l'émission La tête dans l'étagère. Pour l'émission d'aujourd'hui, nous allons avoir un entretien avec Estelle Dolène qui a écrit aux éditions Raison d'agir un livre très intéressant qui s'appelle « À l'extrême droite de l'hémicycle, le Rassemblement national » cœur de la démocratie européenne. Et Estelle Dolène, vous êtes maître de conférence en sciences politiques à l'université Rennes 2. Eh bien, bonjour.
Bonjour, merci beaucoup pour cette invitation.
Eh bien, on est ravis. Du coup, alors, votre livre très intéressant, je vais faire la présentation avec la quatrième de couverture, hein. « À les entendre, les eurodéputés d'extrême droite combattre l'Union européenne de l'extérieur ». Une telle participation contre l'institution mêlant son sein semble pourtant improbable. À partir d'archives parlementaires et partisanes, d'entretiens et d'observations, votre livre révèle comment les élus RN bénéficient en réalité des ressources et des réseaux de cette démocratie européenne. Ils sont en effet liés quotidiennement à tous ceux qui s'engagent en travail parlementaire, les lobbyistes, les fonctionnaires, les élus d'autres groupes, les journalistes, etc., etc. Et en fait, ce que vous montrez, en fait, vous montrez comment leurs intérêts, mais aussi leurs dispositions sociologiques, parce qu'ils viennent quand même d'élites dominantes, les a conduits, ces élus Rassemblement national, à s'intéresser facilement à l'entre-soi de Bruxelles et Strasbourg, qui présentent pourtant, eux, comme un mal technocrate qu'ils veulent combattre. Donc voilà, pour déjà, ça commence à mettre un peu les points sur les i. Et avant d'aborder votre enquête assez intéressante, une enquête ethnographique, hein, on va voir par rapport à... Donc cette extrême droite au Parlement européen, on va se poser un peu des questions. En occupant donc des positions voilà, au sein de l'institution d'élus, donc en occupant des postes d'élus au sein des institutions, est-ce que l'extrême droite se normalise-t-elle? Est-ce qu'elle abandonne sa référence idéologique? Est-ce qu'elle abandonne ses attaques contre les cibles privilégiées qu'elle a, à savoir les immigrés le féminisme, etc., les mouvements pour la justice sociale, contre le mouvement terroriste, etc. Est-ce qu'elle fait ça? Ou, dans ce cadre institutionnel, est-ce que l'extrême droite, elle met de côté, elle prend des distances par rapport à ses attitudes, à ses influences antidémocratiques? Ou est-ce que, plutôt, au contraire, comme certains pensent, elle zive... Ziv Sternel ou Robert Paxton, qui avait fait un livre sur Vichy, lui, il dit que plutôt que c'est une condition cruciale pour leur accès au pouvoir et que c'est vraiment... Voilà, il faut faire très, très attention à ça. Et donc, je pense que c'est aussi intéressant de voir qu'est-ce que dit le débat historique par rapport à ça et qu'est-ce que vos recherches à vous, ethnographiques, par rapport à cette question, qu'est-ce qu'ils peuvent en dire sur ce débat par rapport à l'inscription de l'extrême droite dans les institutions, qu'elles soient nationales ou européennes?
Ben oui, c'est, merci, c'est une très bonne question qui est très vaste, alors je vais essayer d'être claire et d'y répondre relativement rapidement. Alors on arrive, c'est une question qui suscite des controverses, c'est-à-dire que tous les historiens et historiennes ne sont pas d'accord, et y compris sur la période récente, hein, aussi, il y a beaucoup de politistes sociaux qui se posent cette question-ci, qui est la question de est-ce que quand un parti d'extrême droite, alors on se pose aussi cette question pour d'autres partis, mais là, vu qu'on parle du RN, on parle vraiment de l'extrême droite, est-ce que le parti va changer, ou en tout cas les stratégies des dirigeants vont changer à mesure voilà, que le parti entame une nouvelle phase de son histoire, c'est-à-dire accède à une institution. Donc ça, c'est vraiment une question un peu fondamentale, qui est un peu au cœur de beaucoup de travaux en sciences politiques, et même aussi en histoire. Et moi, il m'a semblé intéressant de convoquer l'histoire pour répondre à ces questions-ci. Donc, alors moi, j'ai ensuite fait une enquête de terrain, donc qui me permet de répondre empiriquement. Enfin, je me suis posé ces questions-ci. Après, je me suis demandé comment on pourrait y répondre vraiment méthodiquement en tant que scientifique. Donc, aller chercher, faire des entretiens, faire des observations, etc. Avoir des indicateurs que je créais ou pas, ou pas dans le sens où ils existaient déjà dans la littérature. Et je me suis dit à un moment, le corpus de littérature historique, et notamment d'histoire des fascismes, il peut être intéressant pour nous quand on se pose cette question-là de est-ce que ça change un parti, même un parti très très extrême. Et là, vraiment, le but, c'est pas pour moi de comparer le RN avec un parti fasciste, hein, c'est pas du tout le propos, mais c'est vraiment un propos, un intérêt intellectuel et épistémologique de dire finalement, si on prend les pires partis d'extrême droite, et que sont du coup les partis fascistes, ou le parti nazi, est-ce que le moment où ils ont exercé un poste, un mandat dans une institution politique, et notamment dans un parlement, et le parlement, c'est pas n'importe quelle institution politique, c'est aussi une institution qui est particulièrement délibérative, etc., des fois consensuelle, hein, dans certains pays, et c'est le cas de l'Union européenne. Et donc, est-ce que ça change ce parti alors qu'il est dans une institution parlementaire? Et la réponse, il y a des réponses un peu controversées. Pour d'autres partis que le parti fasciste, parce que dans l'état parlementaire des partis fascistes et du parti nazi montre bien que c'est pas du tout un moment à partir duquel en réalité le parti fasciste ou nazi s'est complètement transformé, a changé sa rhétorique, mais par contre c'est un moment de formation de ses cadres, de formation au cours duquel par moment bien sûr il peut recruter du personnel politique qui est un petit peu différent, et puis en des termes stratégiques par moment la rhétorique elle va être adaptée simplement aussi parce que on s'exprime pas dans le même espace. Donc simplement, on fait des petits ajustements à l'espace dans lequel on s'exprime. Donc là, cette littérature historique-ci, elle m'a semblé importante pour pouvoir comprendre le contemporain, vraiment pas du tout, pour comparer de manière ahistorique les années 20, les années 30, et puis la période actuelle, donc à 100 ans d'écart, mais plutôt pour vraiment se dire... épistémologiquement, ça n'aurait pas de sens de considérer que tout de suite une institution, elle transforme complètement un parti, mais plutôt qu'il faut voir comment ce parti joue et comment ce parti et ses dirigeants vont aller chercher des ressources particulières et comment c'est possible. Et c'est là qu'on commence à être après sociologue, après avoir terminé, on est toujours aussi un peu historien aussi, mais où on regarde les propriétés spécifiques des personnes qui y sont, et ça vous l'avez déjà un petit peu évoqué, c'est des personnes en effet qui sont des élites sociales, et je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir. Ça veut aussi dire qu'ils sont capables un petit peu plus, qu'ils ont certaines aisances par exemple à l'oral, et ça produit des choses quand on est parlementaire, notamment à l'égard des potentiels partenaires ou des potentiels alliés à l'échelon d'un parlement. Et puis moi je suis allée voir aussi quelles étaient les propriétés spécifiques du Parlement européen, parce que là on peut quitter une sphère un peu générale, de dire simplement un Parlement ça donne des ressources à l'extrême droite, et puis il faut aller voir après dans le menu concrètement quelles sont exactement les ressources qui sont appropriées, et puis quelles sont les ressources appropriées à l'échelon européen, qui est un échelon spécifique et qui a quand même des caractéristiques, on voit ça aussi, je pense qu'on va y revenir, mais qui est multinational, qui est particulièrement consensuel, dans lequel il y a une place importante qui est donnée à des groupes d'intérêt par exemple, et tout ça, ça crée quelque chose qui finalement n'est pas, ne perturbe pas tant les extrêmes droites.
Oui, tout à fait, parce que le Parlement européen, comme vous dites, le Parlement européen, c'est un organe de gouvernement qui est assez récent et même plutôt même assez fissuré. Donc, dans ce cadre, les groupes un peu qu'on qualifie de populistes et autres, ils n'ont pas de problème à s'y frayer un chemin qui navigue entre une participation institutionnelle, mais aussi un affichage intransigeant d'adversaires résolus de l'Union européenne. Et donc, dans ce cadre-là, cadre européen, c'est un cadre où donc il y a des rencontres. Hein, donc, tous les gens de ces partis ont des rencontres entre les groupes d'extrême droite entre eux, mais aussi, il peut y avoir des rencontres avec d'autres groupes, peut-être moins d'extrême droite, mais qui ont aussi des agendas, des fois, sur certains thèmes qui peuvent se rejoindre, où peut y avoir certains points communs. Et on note apparemment, depuis les années 2010, il y a de plus en plus de votes en commun du groupe de l'extrême droite. Je crois que c'est le groupe ID, qui s'appelle ID. Et il y a de plus en plus
2019,
de
alors,
votes
oui.
avec le groupe de droite PPE depuis au moins une dizaine d'années. Il commence à y avoir même des convergences dans les votes. Mais aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que donc dans ce Parlement européen, hein, vous dites, hein, on peut voir, hein, il y a pas mal de. Ça fourmille, hein, c'est un vaste réseau. Il y a des eurofonctionnaires, il y a des membres des cabinets de la Commission, il y a des membres de la cabinet du Conseil de l'Europe, c'est encore une autre institution. Il y a des représentants des ministères, il y a des représentants des parlements nationaux de chaque pays, etc., etc. Et tout ça, ça conduit à qu'il peut y avoir donc des connexions, des liens d'interconnaissance, plus ou moins bref, plus ou moins long, enfin voilà, plus ou moins assumé, plus ou moins. Voilà. Mais du coup, dans ce cadre-là, ça permet aussi de s'insérer dans un cadre institutionnel et d'y développer certaines pratiques. Donc, si vous pouvez nous en dire davantage.
Ah oui, tout à fait. Alors il y a beaucoup de points là, vous en évoquez. Alors je vais peut-être rebondir sur certains et puis vous me relancez sur ceux qui vous intéressent. Et en effet, dans l'idée aussi d'étudier l'extrême droite dans un parlement, il y a aussi l'idée de regarder comment ce parlement s'est construit, quelle est son histoire et quelles sont les traces de l'histoire que ça a pu laisser dans le fonctionnement actuel. Moi, c'est pour ça qu'en tant qu'ethnographe, je veux autant aussi chercher des traces du passé, des archives, que ce soit parlementaires ou partisanes. Et puis moi, c'est quelque chose qui m'a frappée en fait, assez fréquemment dans la littérature un peu de sciences politiques. Une des explications des succès électoraux de l'extrême droite à l'échelon européen, c'était que le mode de scrutin, c'est un scrutin proportionnel hein, pour les élections européennes, il était relativement favorable voilà, aux extrêmes droites, c'est-à-dire aux petits partis ou aux partis globalement un peu minoritaires, voilà, ou pas assez dans la majorité. Et ça, c'est vrai, je ne vais pas du tout relativiser hein, ce résultat, c'est vrai qu'on constate plutôt que c'est favorable hein, pour des petits partis ou des partis moyens d'extrême droite, historiquement que c'était des petits partis. On voit aussi que ce sont des partis qui prennent un peu d'ampleur, enfin, qui ont des scores électoraux de plus en plus importants. Et donc, ça, c'est une explication, mais à mon avis, qui n'explique pas complètement tout. Enfin, voilà, c'est simplement un peu la partie émergée de l'iceberg, c'est pas tout. Et je pense que si on veut mieux comprendre pourquoi dans cette sphère si particulière, c'est-à-dire la sphère politique européenne, on a des succès de partis nationalistes d'extrême droite, eh bien, je pense qu'il faut regarder un peu plus près l'histoire, qui est quand même très récente, hein, si on compare à d'autres parlements, du Parlement européen, c'est-à-dire que voilà, on commence à penser à un Parlement, et d'ailleurs au début quand on commence à penser les institutions européennes, au contraire, on ne pense pas à une institution délibérative parlementaire, on pense à d'autres institutions qui auraient pour rôle d'encadrer le marché unique, européen, etc. Mais on ne pense pas à un Parlement. Au contraire, on a un peu peur que ce soit que de rajouter de la politique dans une sphère politique qui initialement est pensée comme étant très technique, et bien que ça ralentisse les prises de décision, que ça soit peu efficace, etc. Donc y compris un des pères fondateurs de l'Union européenne, il n'imagine pas forcément un Parlement dès le début. Donc ça c'est une histoire, en gros, l'histoire du Parlement européen, c'est une histoire des députés qui eux-mêmes vont faire en sorte que leur propre institution, le Parlement européen, au début l'Assemblée européenne, puis ensuite le Parlement européen, prennent de plus en plus de pouvoir dans la sphère européenne. Donc par rapport à deux grosses institutions que sont la Commission européenne et le Conseil de l'Union européenne. Donc ça, c'est vraiment l'histoire du Parlement européen qui montre qu'en réalité, dans la sphère politique européenne, il y a eu beaucoup de personnes qui ont pu alors porter ce projet de faire en sorte que le Parlement ait de plus en plus de poids, mais il y a au contraire aussi beaucoup de gens, y compris des gens qui ne sont absolument pas d'extrême droite, qui ont porté le contraire, le fait qu'on ferait la montée en puissance de cette institution. Et je trouve, enfin en tout cas j'ai trouvé en fait dans cette histoire-ci, cette histoire qui est relativement jeune, hein, on parle vraiment d'un parlement qui existe depuis moins de 50 ans en fait, dans cette histoire qui est très jeune et qui est en plus toujours un petit peu débattue, c'est une institution qui a eu du mal à se frayer une place, à avoir des soutiens. On trouve dans cette institution aussi des signes de faiblesse. Hein. Enfin, vraiment, c'est pas un constat normatif de comment l'Europe devrait être, etc. C'est plutôt historiquement, c'est une institution relativement jeune et faible, et que historiquement, si on compare à d'autres contextes, nationaux, etc. C'est toujours des situations, ces situations-ci, où la démocratie elle est un petit peu en déroute, où elle est un petit peu affaiblie, c'est toujours des contextes dans lesquels l'extrême droite parvient à avoir des scores électoraux qui sont élevés. Donc là, il y a déjà ce premier point de prendre tout ce contexte-ci pour expliquer un petit peu comment peuvent se connecter, y parvenir en premier lieu, hein, comment ils y parviennent, hein, les députés d'extrême droite, les membres de leurs équipes, et puis après, de regarder ce que c'est que cette sphère européenne, elle connecte en fait beaucoup de professionnels de l'Europe dans un espace qui est plutôt petit, hein, puis un espace qui est aussi expatrié, et les espaces expatriés, ça produit aussi des choses dans le quartier européen. Il y a beaucoup de langues qui sont parlées, il y a beaucoup de professionnels différents, y compris des journalistes, des lobbyistes, des membres de cabinet de différentes ONG, etc., qui se rencontrent, et donc des élus, et qui se rencontrent relativement facilement. Donc c'est parce que c'est un petit espace, et ça veut aussi concrètement dire que c'est un espace dans lequel on se rencontre pas simplement aussi quand on travaille. Bien sûr, ça crée des connexions quand on cherche des appuis, quand on cherche à avoir l'avis de certains groupes d'intérêt, etc. Mais on se rencontre aussi très concrètement, puisqu'on habite tous à peu près dans les mêmes quartiers, on se rencontre au restaurant, on se rencontre dans la salle de sport, on se rencontre... Voilà, et tout ça, ça crée aussi un espace dans lequel il y a des connexions qui peuvent, plus facilement s'établir qu'ailleurs, avec plein de professionnels, y compris des professionnels qui ne sont pas... d'extrême droite, et ça peut créer, alors ça ne veut pas dire que ça a tout de suite des impacts politiques, hein, mais quand on est sociologue, c'est assez marquant quand même de voir que c'est des espaces dans lesquels on vit et potentiellement on se rencontre, y compris sur un registre qui est très amical ou même amoureux, etc. Et ça n'exclut pas d'emblée et pas du tout membres d'extrême droite. Alors ça peut paraître complètement paradoxal puisque ce sont ensuite des personnes qui vont rejouer une communication politique sur le registre de l'exclusion, vraiment de dire on est exclu d'Europe, on ne nous fait pas rentrer là-dedans, etc. Et quand on voit sur place, ce sont aussi des personnes qui participent sans trop de problèmes aux espaces de travail d'une part, et puis aussi à plein d'autres espaces de sociabilité qui créent aussi, alors parfois à minima, mais parfois aussi ça a vraiment des impacts, ça crée des choses.
Eh bien, on va faire la première pause musicale.
About how you want to be, you are. thinking there's nothing to what they say. You're gonna be with me anyway. They don't want to see us do all of the things we want to. You ought to be with me.
Vous êtes sur Radio Escapade, c'est l'émission La Tête dans l'Étagère. On vient d'écouter Al Green et le titre du morceau c'est You Ought to Be With Me. Et ben, on poursuit notre entretien avec Estelle Delaine par rapport à son ouvrage à l'extrême droite de l'hémicycle, le RN au cœur de la démocratie européenne. Et il y a quelque chose qu'on aimerait bien aussi évoquer, c'est que... au Parlement européen, le RN, enfin dans son groupe en tout cas, mais lui en particulier, il a choisi de ne pas jouer, de ne pas chercher à influer sur la sur le jeu législatif, sur la fabrication des lois. Il a choisi de pas jouer là-dessus. Il a plutôt choisi de s'insérer dans le Parlement pour y tirer des ressources financières d'une part, mais aussi symboliques de respectabilité d'autre part. Et bon, alors le fait qu'il ne s'investisse pas, lui, il y a plusieurs explications. Hein. Lui, il dit que c'est parce qu'il y a un cordon sanitaire contre eux, mais bon, ça, c'est une explication un peu facile. On peut, voilà. Il y a l'autre explication, c'est que c'est un choix stratégique de s'abstenir, de ne pas voter pour pas, dans les discours, apparaître comme faisant partie d'institutions, alors que dans leur discours politique, ils sont contre les institutions. Et aussi, il y a aussi un autre truc qui apparaît, c'est qu'ils ne sont pas très doués au niveau technique, à part quelques élus. Donc voilà, tout ça qui joue là-dedans. Mais par contre...
Alors, je serais quand même un petit peu plus nuancée.
Oui.
Enfin, je pense au contraire que... au contraire, enfin, moi, je pensais... Enfin, alors, je vais peut-être vous laisser terminer la question, mais au contraire, enfin, moi, j'ai noté quand même plein d'espaces dans lesquels ils s'inscrivaient dans le processus législatif. Alors, je sais qu'il y a beaucoup... enfin, les médias préfèrent mettre l'accent sur certaines figures qui sont en effet très absentéistes, enfin ou alors très absentes et peu impliquées. Alors c'est souvent les présidents du RN, enfin c'était le cas de Marine Le Pen, c'est le cas de Jordan Bardella. C'était pas trop le cas de Jean-Marie Le Pen qui trouvait aussi certains espaces pour un peu contester. Et au contraire, enfin moi j'ai plutôt noté en partie depuis la prosopographie aussi des équipes parlementaires. Alors là, enfin et aussi des élus, hein, mais qui a des compétences. Hein, donc il n'y a pas un choix qui est très différent dans la structuration d'une équipe parlementaire à l'extrême droite comparé à d'autres équipes. C'est-à-dire qu'on choisit des équipes, des assistants-assistantes qui ont, il y a un chapitre du livre sur l'équipe qu'on surnomme en interne l'équipe Sciences Po Paris, parce que c'est exclusivement des jeunes qui sont issus de cette grande école dans l'équipe. Elle recrute que des gens qui ont ces capitaux scolaires-ci. Et donc, ce sont aussi des étudiants qui, concrètement, étaient capables, très largement, d'écrire des amendements dans un langage technique, de parler en public, d'écrire des discours chronométrés. Ça, ils savent le faire, vraiment. Il y a plusieurs équipes, même, qui se spécialisent un petit peu là-dedans, dans certains sujets, etc. Donc ça, vraiment, moi, je pense qu'il faut plutôt mettre l'accent sur quelles sont les stratégies du groupe ou de la délégation pour faire quelque chose ou non. Et c'est là que c'est assez peu coordonné ou assez peu structuré. Mais il y a des déjà là, vraiment, en gros, si certaines équipes décidaient de peser beaucoup plus dans le processus législatif, ils pourraient très largement le faire. C'est juste qu'il y a une absence de volonté politique à un certain moment. Ce qui ne veut pas dire, enfin, et là sur la prise de certains rapports par exemple, même si moi je montre aussi dans le livre qu'ils en prennent des rapports, et ça veut aussi dire qu'il y a des élus de droite ou même de gauche qui par moment en fait les laissent prendre des rapports. Donc ça vraiment ça existe déjà et je pense qu'il faut vraiment un peu mettre l'accent là-dessus. Parce que je sais que c'est plus difficile à voir quand on fait pas, enfin quand on n'est pas déjà un petit peu dedans. Mais c'est déjà là. Enfin, c'est des choses qui sont présentes, qui sont même qu'on note depuis les années 80, depuis les années 90 dans les archives, il y a déjà eu des rapports RN, FN, y compris sur des sujets très touchy, quoi, enfin l'immigration, il y a déjà eu, c'est un des chapitres du livre, il y a eu un rapport sur l'immigration qui a été porté par une élue frontiste au cours de la 8e législature, par exemple. Donc ça, c'est déjà des choses qui sont là. Enfin, vraiment, ça existe et ça vient un petit peu contrebalancer ou montrer que le cordon sanitaire, il a des trous, en fait, parce que, en effet, c'est par contre, ça c'est aussi très vrai, de dire que les deux grands groupes du Parlement européen, que sont le PPE et le SND, travaillent, en tout cas, essayent que certains groupes d'extrême droite et les groupes qui sont créés autour du RN n'aient pas de responsabilité, notamment des présidences de commissions. Alors là, il faut tout de suite noter qu'ils n'ont pas la même stratégie de cordon sanitaire avec d'autres groupes d'extrême droite. C'était le cas du UKIP, du groupe formé autour du UKIP, EFDD, la législature précédente. C'était des élus d'extrême droite qui avaient accès à des fonctions. Donc ça, encore une fois, attention à comment peut-être les élus de droite labellisent en fait les différents élus en fonction aussi des stratégies qu'ils ont d'intégrer ou non l'extrême droite. Et c'est vrai que pour l'instant, les groupes formés autour du FN ou du RN n'ont pas eu accès à certaines responsabilités dans des commissions parce que les autres élus y veillent. Et ça, c'est comme tout cordon sanitaire, comme toute décision politique, comme toute stratégie politique, ça peut être amené à changer à mesure que les rapports de force en interne au Parlement européen se reconfigurent. Et puis ensuite, il y a d'autres types de travail. Quand on participe au travail parlementaire, ça veut dire aussi qu'on vote. Et qu'on vote, c'est ce que vous disiez aussi de là très clairement, je pense que c'était même votre précédente question, ils peuvent voter à droite avec la droite ou avec les conservateurs, et ça crée des coalitions. Et là aussi, je pense qu'il faut, ils travaillent au moins à faire ça, quand ils ne sont pas en première ligne à venir proposer un rapport, parfois, en fait, ils viennent simplement rejoindre une coalition déjà existante, mais qui aurait pu être structurée autrement et qui aurait pu avoir un autre résultat s'il y avait eu des négociations à faire avec la gauche, par exemple, ou avec les Verts, etc. Et bien là, on peut avoir une coalition, surtout depuis 2019, c'est ce que vous disiez, avec le groupe ID, dans un Parlement qui est beaucoup plus fracturé, puisque les petits groupes et les moyens groupes ont un peu plus de place, c'est-à-dire que les deux grands groupes historiquement majoritaires ont perdu de la place, ce qui veut dire qu'il y a la place, là, très clairement, en effet, pour des coalitions de droite sur certains sujets.
Mais c'était surtout pour mettre l'accent, pour l'intérêt qu'ils avaient au Parlement européen, pas trop à être dans le jeu législatif, mais à obtenir des ressources financières, oui, d'une part, et symboliques, d'autre part.
Tout à fait. Alors c'est un autre travail qu'ils produisent aussi. Alors là, derrière, même les élus qui ont un très faible bilan, donc en effet, il y en a certains, mais encore une fois, vraiment, je pense que c'est pas le cas de tout le monde. Il y a des élus d'extrême droite qui ont un bilan important, qui interviennent beaucoup en séance, qui interviennent beaucoup en commission, et où vraiment qui travaillent, enfin qui travaillent des amendements. Et puis, il y a donc aussi tout un autre volet, tout un autre travail de aller chercher ces types de ressources aussi. Donc matériel, ça je pense que pour des auditeurs et des auditrices françaises, enfin je pense qu'on les a vus avec l'affaire des assistants fictifs, on a vu les montants de certaines enveloppes parlementaires européennes, on a vu aussi les montants de certaines dotations financières pour les fondations européenne ou les partis européens. Donc on voit que forcément c'est intéressant ou c'est important, ça donne vraiment des ressources financières importantes. Les ressources symboliques, c'est tout ce qui est aussi ce que ça fait dans une carrière de pouvoir utiliser son mandat européen, en fait, tout simplement, de pouvoir recruter du personnel, de pouvoir aussi apparaître dans des médias, de pouvoir se prévaloir aussi d'une certaine position institutionnelle et aussi d'une certaine position, de représenter certaines franges de l'électorat. Et ça, on le voit, en plus, il le rappelle assez souvent, les bons scores obtenus et où vraiment leur place dans le... ou en tout cas la place qu'ils peuvent occuper en tant qu'élus, alors même que c'est aussi sont évidemment des élections dans lesquelles il y a une abstention qui est assez forte, mais bon, ça donne cette place-ci, en tout cas, et ça c'est clair aussi que c'est important, et même dans les ressources symboliques, on peut aussi compter cette idée-ci de pouvoir s'afficher avec des partenaires. Donc là, des partenaires que sont des homologues d'autres pays, d'autres partis nationalistes d'extrême droite, des Italiens, des Allemands, des Autrichiens, etc. Et ça crée quelque chose, ça crée quelque chose aussi potentiellement sur les électorats qui voient le parti pour lequel ils ont pu voter se prévaloir de certaines alliances.
Et juste ajouter, il y a deux groupes d'extrême droite, enfin, qu'on peut qu'il y a fait d'extrême droite au Parlement européen. Il y a un groupe où siègent les élus RN, et il y a un groupe où, enfin, il y a des élus qui étaient RN, mais que maintenant Éric Zemmour avec son parti, beaucoup de gens les élites de RN étaient passés chez Éric Zemmour, ils sont aussi dans un groupe. Il y a Zemmour qui est avec le Giorgia Meloni, l'italienne et d'autres. Donc, il y a deux groupes d'extrême droite plus ou moins concurrents au Parlement européen. C'est quand même.
Il y en a même plusieurs. Il y a certaines mandatures dans lesquelles il y en a jusqu'à trois groupes d'extrême droite. Donc, c'est ça aussi. Qui travaillent, comme vous le disiez bien, à montrer, à afficher le fait qu'ils soient différents. Et ça, c'est des messages qui sont envoyés à leurs électeurs, à leurs adhérents, etc., de montrer que même à l'échelon européen, ils ont des lignes doctrinales qui seraient différentes, etc. Alors qu'en pratique, quand on regarde, il y a des circulations en réalité, très humaines ou très carriérales, en termes de carrière, entre ces groupes, c'est-à-dire qu'il y a par moments des personnes qui sont assistants d'un groupe et qui passent dans un autre groupe. Ça peut se retrouver. Donc ça vient aussi un petit peu relativiser ces grandes différences entre groupes d'extrême droite. Et puis, en effet, le groupe dans lequel actuellement il y a des élus qui ont reconquête, c'est le groupe conservateur. Et là, ça illumine un petit peu quelque chose que moi j'avais à cœur de montrer même avant... qu'on puisse le voir si concrètement, c'est qu'en effet, les alliances, y compris les alliances chez les conservateurs ou certains groupes, y compris le PPE, qui est le grand groupe majoritaire de droite, qui a accueilli pendant quelque temps le Fidesz, donc le parti de Viktor Orban, ce dirigeant d'extrême droite hongrois. Donc on voit bien aussi qu'il y a d'autres insertions qui se font, d'autres partis d'extrême droite. Enfin, c'est pas demain la veille que le RN va parvenir à intégrer le PPE. Il y a trop de lignes politiques différentes. Mais on voit aussi que des groupes très installés, européens, etc., accueillent par moments aussi des groupes, des partis d'extrême droite qui par moments reconfigurent leur alliance à une autre mandature. Moi, je pense par exemple au Dansk Folkeparti, qui est un parti danois d'extrême droite, qui a déjà été dans le groupe conservateur dans une précédente mandature et qui maintenant est allié avec le RN. Alors potentiellement qu'il va le rester allié avec le RN, mais il pourrait continuer à faire des alliances avec d'autres partis. Donc en tout cas, à l'échelon européen, en effet, une fois qu'on est élu, quand on est un député d'extrême droite, il faut qu'on se trouve des partenaires pour intégrer des groupes, sachant que l'intérêt d'avoir un groupe, au-delà de pouvoir aussi montrer qu'on a des partenaires, qu'on travaille ensemble, etc., voire de concrètement travailler ensemble, ce qui est moyennement le cas hein, pour des groupes d'extrême droite, eh bien, ça donne accès, encore une fois, à des ressources matérielles. Là, très concrètement, vous pouvez recruter beaucoup plus de personnel, vous avez beaucoup plus de dotations financières, puisque tout est proportionnel, et surtout quand vous créez un groupe. Donc voilà, ça crée tout ça aussi, c'est aussi pour ça qu'il y a une recherche ou des négociations qui sont importantes pour créer un groupe ou pour ne pas créer de groupe, c'est-à-dire siéger sur le banc des non-inscrits.
Eh bien, on va faire la dernière pause musicale avant d'arriver à finir notre entretien et on va aborder aussi un autre livre auquel vous avez participé.
Love and happiness. But wait a minute, something's going wrong. Someone's on the phone. 3 o'clock in the morning. Yeah. Talking about how she can make it right. Yeah. Yeah. Happiness is when you really feel good about somebody. There's nothing wrong being in love with someone. Yeah. Oh, baby, love and a happiness. Love and a happiness. Oh.
Vous êtes sur Radio Escapade, c'est l'émission La Tête dans l'étagère. On écoute toujours Al Green et le titre du morceau, c'est Love and Happiness. On termine notre entretien avec Estelle Delaine. Donc c'était par rapport à son ouvrage à l'extrême droite de l'hémicycle. Mais on voudrait aussi dire que vous avez aussi participé à un livre très intéressant qui était paru il y a plusieurs mois. Vous avez dirigé avec Safia Daini, Félicien Faury et Guillaume Letourneur, et ça s'appelle « Sociologie politique du Rassemblement national » qui était paru aux presses universitaires du Septentrion. Donc c'est un ouvrage collectif, il y a plusieurs auteurs. Hein. Et du cas, c'était pour travailler un peu, pour observer, analyser les modalités d'organisation du RN, ses modalités d'implantation et aussi ses modalités de séduction électorale pour les adhérents. Et dans différents territoires et dans différents milieux sociaux. Donc voilà, vous explorez un peu, c'est assez large, c'est très, très intéressant. Donc plutôt que d'analyser le discours politique, les programmes, les mots, faire des débats sur les mots, le discours du FN, vous C'était plutôt une étude sur son fonctionnement, comment il, voilà, comment il s'implante, qui sont ses électeurs, etc., etc. Et du coup, là, c'était et vous disiez que si l'extrême droite avait des spécificités, il fallait les étudier avec les mêmes méthodologies que pour les autres partis, donc des analyses empiriques, analytiques, plutôt que de, face à la profusion des sondages et des essais qui n'ont pas de but empirique, vous voulez plutôt faire des enquêtes sociologiques afin de redonner toute son épaisseur sociale au phénomène du RN. Donc voilà, si vous pouvez un peu nous en parler.
Oui, tout à fait. Tout à fait, c'est un livre dont on est très fiers et en effet qui regroupe beaucoup de jeunes chercheurs, chercheuses. C'est un peu notre caractéristique, c'est en fait on s'est rencontrés quand on était en doctorat et on a eu envie à un moment de discuter puisqu'on travaillait sur des objets liés au Front National, donc ou au Rassemblement National, puisque entre temps le parti a changé de nom, on était déjà engagé dans nos enquêtes avant 2018. Donc on l'étudiait à différents échelons. Alors là je dis on, c'est vraiment les différents, enfin on est une dizaine d'auteurs dans le livre. Voilà, il y avait des personnes qui étudiaient des électeurs et des électrices, et donc qui passaient beaucoup de temps. Donc je viendrai après sur vraiment la deuxième caractéristique, qui est qu'on est tous et toutes des sociologues qui faisons du terrain, donc vraiment on faisait des entretiens, des observations, etc. Donc il y avait des personnes qui étaient plutôt auprès des électeurs et des électrices, donc qui passaient du temps, répétaient des entretiens pour essayer de comprendre un petit peu les différentes valeurs de ces électeurs, ce qui les poussait à voter ou non, quels étaient un petit peu leurs univers politiques, comment ils en sont arrivés là, quelles sont leurs socialisations aux politiques, etc. Il y avait d'autres personnes qui travaillaient plutôt auprès de militants et des fois auprès de militants qui étaient intermittents, ce qu'on a beaucoup aussi en tête, l'image d'un militant un peu nervi qui serait tout le temps là, depuis toujours, etc. Alors celui-là, il existe, on l'a aussi un petit peu rencontré, mais il y a aussi des gens qui sont un peu plus intermittents, qui militent et qui arrêtent ensuite, ou qui militent un peu contre leur gré. Je pense à un chapitre de Megan Irbani, les militants de la Manif pour tous, ils sont pas tous portés sur le RN, mais parfois, et là ce serait le monde dans son chapitre, pour la présidentielle par exemple, alors ils ne deviennent pas militants, mais ils deviennent électeurs RN sans être complètement convaincus. Voilà, donc ils vont arrêter de voter ensuite pour ce parti-ci, mais de manière conjoncturelle. Ils peuvent trouver des intérêts à parfois voter pour le FN ou pour le RN. Et puis il y avait d'autres personnes qui travaillaient sur les cadres plutôt du Front National et du Rassemblement National, donc comme Safia Dahani, comme Marion Jacquet-Vaillant, elle aussi qui travaille plutôt sur les identitaires qui sont recrutés à un temps pendant, enfin des fois dans des équipes parlementaires également, mais plus largement auprès de dirigeants, dirigeantes frontistes. Et puis moi aussi, je travaille donc sur les équipes parlementaires. Donc on a trouvé un intérêt à discuter ensemble à un moment pour se poser plusieurs questions. Cette question de la normalisation ou de qu'est-ce qui rend possible un vote ou un peu de temps pour militer, voilà, ou au contraire vraiment de s'engager comme cadre ou comme dirigeant, dirigeante, quel type de trajectoire fait. Ensuite, d'autres questions qui sont un peu liées plus généralement aussi à la légitimation de ce parti dans différents espaces sociaux, en fait, comment c'est possible, comment c'est... Là, on a des chapitres, suite de Benjamin Chevalier, par exemple, qui est sur les enseignants, qui sont les enseignants qui votent FN ou qui militent même FN, voilà, quelles sont leurs propriétés sociales, sociologiques, politiques. Donc voilà, donc on a eu un intérêt, et parfois, en plus, ce sont les mêmes personnes, en fait, à partir du moment où on travaille sur certains cadres plus ou moins élevés dans la hiérarchie, des fois, ils sont aussi multipositionnés, ils se rencontrent. Et nous, c'était aussi cet intérêt-ci qu'on avait à proposer ce livre ensemble. Donc, il propose vraiment, encore une fois, des recherches récentes. Donc après, il faut aussi aller voir les livres ou les articles de chaque auteur ou autrice, parce que, voilà, il y a un gros travail de fond qui a été mené derrière, mais voilà, c'est aussi pour pouvoir découvrir aussi une recherche menée sur un temps de l'histoire du RN qui est plutôt les deux présidences de Marine Le Pen à la tête de ce parti-ci, et qui était, alors puisque c'est l'histoire contemporaines, très récentes, qui étaient pour l'instant encore pas trop étudiées par les politistes, parce qu'il faut toujours un petit temps d'analyse, enfin de récolte de matériaux aussi, et puis de leur interprétation. Et je pense que voilà, c'est un bon début pour comprendre un peu ce que c'est que l'extrême droite et ce que c'est que ce parti aujourd'hui, je crois.
Oui, ce qui est intéressant, c'est que dans ce livre-là, enfin avec vos collègues, vous montrez que loin d'être un parti en mutation, c'est en grande partie c'est une structure héritée. Hein, donc c'est toujours la famille Le Pen qui le dirige, et dont les stratégies de retournement du stigmate derrière le terme de dédiabolisation sont devenues opérantes dans l'espace politico-médiatique. Or, il y a toujours deux options qui ont toujours été concurrentes dans le parti. Il y a l'option de la radicalisation et l'option de la normalisation. Donc ça a toujours été un jeu de crier au discours rhétorique un peu victimaire qu'on peut dire de la diabolisation. Mais aussi, c'était aussi un jeu de faire une respectabilité et d'afficher un storytelling de dédiabolisation. Et la dédiabolisation, pardon, elle s'est un peu arrêtée hein, on va dire, un peu l'abandon de la promotion de l'antisémitisme, du négationnisme et des trucs néo-nazis. C'est juste arrêté là. Pour le reste, ils ont vraiment gardé l'essentiel. Quoi.
Oui, oui, et il a de l'intérêt aussi d'aller regarder au-delà des discours qui sont promus, et je pense que vous avez déjà raison de noter un petit peu cette distinction factice en fait entre normalisation, déradicalisation ou pas, et au contraire de voir que c'est aussi un jeu qui se fait relativement conjointement, et puis c'est aussi dans les discours qui sont produits, un jeu qui suit aussi la trajectoire du parti, sa trajectoire politique et son acceptabilité dans les médias, et c'est après des choses qu'on voit un petit, quand on essaie de trouver des pratiques au-delà des discours, hein, encore une fois, enfin, je pense que on est tous et toutes là dans le livre à travailler sur autre chose que des discours médiatiques ou des discours officiels des élus ou des dirigeants, dirigeantes du Front National, mais plutôt pour regarder comment en pratique, enfin, qui sont par exemple les personnes recrutées, quelles sont leurs trajectoires, voilà, ensuite comment ils sont socialisés dans des espaces particuliers. On regarde plutôt ces phénomènes-ci et là on voit qu'il n'y a finalement pas une distinction très importante. On voit aussi qu'il n'y a pas, par exemple, en interne, au sein même du parti, qu'il n'y a pas de procédure disciplinaire pour des personnes voilà, qui seraient issues de l'extrême droite très radicale, hein, puisqu'ils sont aussi recrutés à des postes importants dans le parti. Donc ça, ce n'est pas excluant. Donc derrière un discours de dédiabolisation qui là aussi est même littéralement la formule de Marine Le Pen, enfin, de ses dirigeants, il y a aussi des pratiques qui sont assez faibles, enfin, pour mettre en œuvre ça concrètement. Il n'y a pas d'exclusion de membres qui auraient des propos et racistes ou même antisémites, etc. Il n'y a pas de procédure disciplinaire et puis il n'y a pas un grand changement dans les stratégies de recrutement. Bien sûr, c'est plus exactement les mêmes personnes, puisqu'il y a des personnes qui sont maintenant un peu trop âgées pour avoir des fonctions de responsabilité, par exemple, mais dans le choix qu'on fait, est-ce qu'on va prendre des militants très extrêmes, très ultra ou pas, eh bien, on voit qu'il n'y a pas eu un grand changement sur les stratégies mises en œuvre en termes de recrutement.
Oui, donc on peut dire que la normalisation, elle n'est pas irrésistible.
Non, puis surtout, elle n'est pas vraiment empiriquement visible pour les sociologues que nous sommes. C'est pas quelque chose qu'on observe en pratique. On observe des déplacements dans certains discours parce qu'il y a des élus, alors malins ou soit, ou plutôt professionnalisés, qui ne disent plus la même chose dans des médias parce qu'ils ont eu des formations pour ne pas le faire. Et donc ça, c'est certes une toute petite différence, c'est-à-dire qu'ils sont un peu plus formés, donc ils disent peut-être des choses un peu différentes, mais c'est pas fondamentalement des élus qui portent autre chose, qui amènent autre chose, qui ont des caractéristiques sociales et politiques différentes. Ça, c'est pas quelque chose qu'on observe.
Eh ben, sur cette conclusion, on remercie pour cet entretien et on vous souhaite une bonne continuation.
Merci beaucoup à vous, merci pour l'échange.
Chers auditeurs, je voulais aussi faire la réclame parce qu'il y a un auteur qui a participé donc au livre collectif La sociologie politique du Rassemblement national qui était dirigé par Sophia Dahani, Estelle Delaine, Guillaume Le Tourneur et Félicien Faury. Eh ben, Félicien Faury, il a fait paraître, il n'y a pas longtemps, un livre qui s'appelle « Des électeurs ordinaires, enquête sur la normalisation de l'extrême droite », qui vient de paraître aux éditions du Seuil, qui est aussi très intéressant sur donc les électeurs du RN dans le Sud-Est. Au revoir et à bientôt. La tête dans l'étagère, une émission de critique sociale diffusée sur Radio Escapade les premiers et troisièmes mardis du mois de 17h à 18h. Rediffusion le vendredi à 9h30.